Chapitre 4. Espace. 14. Le vaisseau semblait encore plus impressionnant que ne l'avait escompté Trévise, en se fondant sur les souvenirs de l'époque où l'on avait fait tout un battage sur cette nouvelle classe de croiseurs. Ce n'était pas tant sa taille qui impressionnait, car l'appareil était assez petit, conçu avant tout pour la vitesse et la maniabilité, mais sa conception. Il était équipé d'une propulsion intégralement gravitique, et surtout d'une informatisation très poussée. Il s'agissait d'un appareil à un seul pilote, capable de se substituer avantageusement aux anciens modèles requérant un équipage de 12 personnes ou plus. Avec un deuxième, voire un troisième homme à bord pour assurer des roulements, un tel engin était capable de tenir tête à toute une flottille de vaisseaux extérieurs à la Fondation, considérablement supérieure en taille. De plus, sa vitesse bien supérieure lui permettait d'échapper à tout autre appareil existant. Engin d'allure effilée, aux lignes épurées, sans une courbe superflue à l'extérieur comme à l'intérieur, chaque mètre cube de son volume était rentabilisé au maximum, procurant une paradoxale impression d'espace intérieur. De tout ce que le maire avait pu raconter à Trévise quant à l'importance de sa mission, rien n'aurait pu l'impressionner comme l'appareil avec lequel on lui demandait de l'accomplir. Brano de bronze, songea-t-il avec ennui, l'avait embobiné dans cette mission dangereuse et de la plus haute importance. Peut-être ne l'aurait-il pas accepté avec une telle facilité si elle n'avait pas tout fait pour lui donner envie de montrer ce dont il était capable. Quant à Pellorat, il était positivement transporté d'émerveillement.
« Le croiriez-vous »
dit-il en effleurant du bout d'un doigt la coque avant de pénétrer dans l'appareil.
« Mais je n'avais jamais vu de près un astronef. »
« Je le crois bien volontiers, si vous le dites, professeur. Mais comment diable avez-vous fait votre compte ?»«
Je me le demande bien, pour tout vous dire, mon cher garce... Pardon, mon cher Trévise. Je suppose que j'étais entièrement absorbé par mes recherches.
Quand on a la chance de disposer chez soi d'un excellent ordinateur capable de dialoguer avec n'importe quel autre appareil dans toute l'étendue de la galaxie, on n'éprouve guère le besoin de bouger. »
« Vous savez, j'avais plus ou moins dans l'idée que les astronefs étaient plus grands. »«
Celui-ci est un petit modèle. »« Mais il est quand même beaucoup plus vaste intérieurement que n'importe quel autre appareil d'encombrement équivalent. »«
Comment est-ce possible ?
Vous vous moquez de mon ignorance ?»« Non, non. Je suis sérieux. »« C'est l'un des premiers modèles à être entièrement équipé de générateurs gravitiques. »«
Qu'est-ce que cela signifie ?
Et, s'il vous plaît, ne me l'expliquez pas si cela implique le recours à des notions de physique trop ardues. Je vous croirais sur parole, tout comme vous l'avez fait hier au sujet de l'unicité tant de l'espèce humaine que de la planète des origines. Essayons quand même, professeur Pellorat. Depuis des millénaires qu'existe la navigation spatiale, nous avons toujours utilisé des moteurs chimiques, ioniques ou hyperatomiques, tous plus encombrants les uns que les autres. La vieille marine impériale avait des vaisseaux longs de 500 mètres, dont l'habitabilité ne dépassait pas celle d'un petit appartement. Par chance, depuis des siècles, la Fondation s'est spécialisée dans la miniaturisation à cause de, ou grâce à, son manque de ressources naturelles. Ce vaisseau est le couronnement de ses recherches. Il utilise l'antigravité et le dispositif qui rend la chose possible ne prend virtuellement pas de place. En fait, il est intégré à la coque même. Sans cela, on aurait besoin de propulseurs hyperatomiques. Un garde de la sécurité s'approcha. Il va falloir embarquer, messieurs. Le ciel pâlissait même si le soleil ne devait se lever que dans une demi-heure. Trévise chercha des yeux ses affaires. Mes bagages sont-ils chargés ?
Oui, conseiller. Vous trouverez à bord tout ce qu'il vous faut.
Avec une garde-robe, je suppose, ni de mon goût ni de ma taille. Le garde eut un soudain sourire, timide et presque enfantin.
« Je crains que si.
Le maire nous fait faire des heures supplémentaires depuis 2 jours, et on s'est efforcé de recopier avec précision ce que vous aviez, sans regarder à la dépense. Écoutez. » Il jeta des regards autour de lui comme pour s'assurer que personne n'avait surpris cette soudaine fraternisation. « Vous êtes deux vénards.
le meilleur vaisseau du monde, complètement équipé, hormis l'armement. Pour vous, tout baigne dans l'huile, non ?
L'huile rance, je veux bien, rétorqua Trévise.
Eh bien, professeur, êtes-vous prêt ?
Avec ceci, ce sera tout, dit Pellerat en brandissant une sorte de gaufre de 20 cm de côté, encartée dans un étui de plastique argenté. Trévise se rendit compte soudain que Pellerat n'avait pas lâché l'objet depuis qu'ils étaient partis de chez lui, le faisant passer d'une main à l'autre, sans jamais le poser, même lorsqu'il s'était arrêté pour un casse-croûte sur le pouce.
« Qu'est-ce que c'est, professeur ?»«
Ma bibliothèque, classée par matière et par source, le tout inclus dans une seule malheureuse plaque. Si cet astronef est une merveille, alors qu'est-ce que vous dites de ça ? Une bibliothèque entière, tout ce que j'ai pu rassembler. Fantastique. Fantastique.
Eh bien, effectivement, tout baigne dans l'huile. »
15. Trévise s'émerveilla devant les aménagements intérieurs. L'espace était exploité avec ingéniosité. Il y avait une cale, avec les réserves de nourriture, des vêtements, des films et des jeux. Une salle d'exercice, un salon et deux chambres quasiment identiques.
« Celle-ci, dit Trévise, ce doit être la vôtre, professeur. En tout cas, elle dispose d'un lecteur décodeur. »
« Mais bien sûr !» dit Pellerat totalement satisfait. « Quel idiot j'ai fait à vouloir éviter les voyages dans l'espace ! Mais je crois, mon cher Trévise, que je pourrais vivre ici dans le bonheur le plus total !»
« C'est plus vaste que je ne me l'imaginais, » constata ce dernier avec plaisir.
« Et les moteurs sont vraiment dans la coque, dites-vous ? »
« Les dispositifs de commande, tout du moins. Nous n'avons pas besoin de stocker de carburant ni d'en utiliser sur place. Nous tirons directement parti des ressources que procure l'énergie fondamentale présente dans tout l'univers, si bien que le carburant et le moteur sont en fait partout, tout autour de nous. » Il embrassa l'espace d'un geste vague.
« Allons bon. Maintenant que j'y songe, si jamais quelque chose se met à clocher... »
Trévise haussa les épaules. « J'ai subi un entraînement à la navigation spatiale, mais pas sur ce genre de vaisseau. Si quelque chose se met à clocher du côté du générateur gravitique, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand-chose à y faire.
Mais vous savez quand même gouverner cet engin, le piloter. »
C'est bien ce que je me demande.
Est-ce que vous supposez que ce vaisseau est automatique ? Pourrions-nous n'être que de vulgaires passagers censés rester simplement plantés là ?
Ce genre de choses est possible dans le cas de navettes interplanétaires ou de stations spatiales au sein d'un même système stellaire, mais je n'ai jamais entendu parler de voyage hyperspatial automatisé. Du moins, pas sur de telles distances. Non, pas sur de telles distances. Il regarda de nouveau autour de lui, cette fois avec un soupçon d'inquiétude. Cette vieille sorcière de Brano avait-elle goupillé tout cela de façon à ce qu'il reste en dehors du coup ? Et la Fondation avait-elle automatisé le voyage interstellaire pour qu'il se retrouvât déposé à Trentor entièrement contre son gré et sans qu'il eût plus son mot à dire que le mobilier de bord ? Il lança avec un entrain qu'il était loin de ressentir.
« Professeur, vous vous asseyez là. Le maire a dit que ce vaisseau était entièrement automatisé. Si votre cabine dispose d'un lecteur décodeur, la mienne devrait avoir un ordinateur. Mettez-vous donc à l'aise. » « Et laissez-moi jeter un coup d'œil aux environs. »
Pellerat prit instantanément un air alarmé. « Trévise, mon cher compagnon, vous n'allez pas débarquer, n'est-ce pas ?»«
Loin de moi cette idée, professeur. Et je voudrais le faire que vous pouvez être sûr qu'on m'en empêcherait. Il n'est pas dans les intentions du maire de me laisser filer. Non, je comptais simplement essayer de découvrir de quelle manière est gouvernée l'étoile lointaine. »
Il sourit. « Je ne vous lâcherai pas, professeur. »
Il sourit encore en pénétrant dans ce qu'il sentait être sa propre chambre, mais son visage redevint sérieux une fois qu'il eut refermé la porte derrière lui. Sûrement qu'il devait exister un moyen ou un autre de communiquer avec une planète dans les parages du vaisseau.
il était impensable qu'un astronef pût être délibérément isolé de l'extérieur, et par conséquent, il devait bien y avoir quelque part, dans une niche peut-être, un transmetteur. Avec, il pourrait joindre le bureau du maire afin de se renseigner sur la manœuvre du vaisseau. Il inspecta soigneusement les cloisons, la tête de lit et le mobilier aux formes strictes et lisses. S'il ne trouvait rien ici, il visiterait le reste du vaisseau. Il était sur le point de s'en aller, lorsque son œil surprit un éclat de lumière à la surface lisse, marron clair du bureau. Un cercle lumineux portant cette mention bien lisible « Ordinateur, mode d'emploi ». Ah ! Malgré tout, son cœur se mit à battre plus fort. Il y avait ordinateur et ordinateur, et certains programmes étaient particulièrement longs à bien maîtriser. Trévise n'avait jamais commis l'erreur de sous-estimer sa propre intelligence, mais d'un autre côté, il n'avait rien d'un grand maître. Certains étaient doués pour se servir d'un ordinateur et d'autres pas, et Trévise savait pertinemment dans quelle catégorie se ranger. Au cours de son passage par la marine de la Fondation, il avait atteint le grade de lieutenant et avait parfois tenu le poste d'officier de quart et donc eu l'occasion d'utiliser l'ordinateur de bord. Il n'en avait toutefois jamais eu seul la responsabilité, et on ne lui avait jamais demandé d'en savoir plus que les manœuvres de routine exigées d'un officier de quart. Il se rappelait, non sans quelque angoisse, le volume que pouvait prendre le listage total d'un problème et revoyait fort bien le comportement du sergent Krasnet, le technicien derrière la console de l'ordinateur de bord. Il en jouait comme s'il s'était agi de l'instrument de musique le plus complexe de toute la galaxie, le tout avec un air de nonchalance affectée, comme si la simplicité de la chose l'ennuyait. Pourtant, même lui devait parfois avoir recours au manuel, non sans pester de confusion. Hésitant, Trévise posa un doigt sur le cercle lumineux, et aussitôt la lumière gagna tout le dessus du bureau, révélant les contours de deux mains, la droite et la gauche. En douceur, le plateau s'inclina rapidement jusqu'à un angle de 45 degrés. Trévise prit le siège devant le bureau. Les mots étaient inutiles. Ce qu'on attendait de lui était évident. Il plaça les mains contre les contours dessinés sur le plateau, contours positionnés de telle sorte qu'il put le faire sans effort. La surface du plateau lui parut douce, presque duveteuse là où il l'effleurait, et ses mains s'y enfoncèrent. Il les contempla avec surprise, car elles ne s'étaient pas enfoncées le moins du monde. Elles étaient toujours à la surface, lui révélaient ses yeux. Pourtant, au toucher, c'était comme si la surface du bureau avait cédé, et comme si quelque chose de doux et chaud lui tenait les mains. Était-ce tout? Et maintenant? Il regarda autour de lui, puis ferma les yeux en réponse à une suggestion. Il n'avait rien entendu. Rien de rien. Mais dans son cerveau, comme une idée fugace qui lui serait venue, résonnait cette phrase. « Fermez les yeux, je vous en prie, détendez-vous, nous allons établir la connexion. » Par les mains? Trévise avait toujours plus ou moins imaginé que le jour où l'on communiquerait par la pensée avec un ordinateur, ce serait par l'entremise d'un casque placé sur la tête et bardé d'électrodes sur les yeux et le crâne. Les mains? Les mains. Mais pourquoi pas? Trévise se sentit dérivé, presque engourdi, mais toutefois sans perte de ses facultés mentales. Les mains? Pourquoi pas? Les yeux n'étaient rien de plus que des organes sensoriels, et le cerveau rien de plus qu'un grand standard dans une boîte osseuse, bien isolé de la surface active du corps. C'étaient les mains, la surface active du corps, les mains qui touchaient et manipulait l'univers. L'homme pensait avec ses mains. C'était ses mains qui répondaient à sa curiosité, qui tâtaient et pinçaient, et tournaient, et levaient, et soupesaient. Il y avait bien des animaux dotés d'un cerveau de taille respectable, mais dépourvus de mains, et c'était là ce qui faisait toute la différence. Et tandis que l'ordinateur et lui se prenaient par la main, leurs pensées fusionnèrent, et peu importa soudain que ses yeux fussent ouverts ou fermés. Les ouvrir n'amélioraient pas plus sa vision que les refermer ne l'obscurcissaient. Dans l'un ou l'autre cas, il voyait la pièce avec une identique netteté. Et pas simplement dans la direction vers laquelle il regardait, mais aussi tout autour, du dessus et de dessous. Il voyait chacune des cabines du vaisseau et l'extérieur tout aussi bien. Le soleil s'était levé et son éclat était atténué par la brume du matin, mais il pouvait le contempler directement sans être ébloui, car l'ordinateur filtrait automatiquement les ondes lumineuses. Il sentait la douce brise et connaissait sa température et décelait tous les bruits du monde alentour, détectait le champ magnétique de la planète et jusqu'aux minuscules champs électriques sur la paroi du vaisseau. Il prit conscience des commandes de l'astronef, sans même les connaître dans leurs détails. Il savait seulement que s'il désirait faire décoller l'engin, le faire tourner, le faire accélérer, ou utiliser l'une ou l'autre de ses possibilités, le processus était le même que pour effectuer l'équivalent avec son corps. La volonté suffisait. L'emprise de la volonté n'était toutefois pas sans mélange. L'ordinateur lui-même pouvait à tout moment reprendre les commandes. À l'instant d'ailleurs, une phrase venait de se former dans son esprit et il sut exactement quand et comment le vaisseau allait décoller. Il n'y avait rien à redire sur ce point précis. Après, savait-il tout aussi sûrement, il serait à même de décider de lui-même à nouveau. Projetant vers l'extérieur le réseau de ses sens désormais électroniquement développés, il découvrit qu'il pouvait discerner l'état de la haute atmosphère, distinguer les formations nuageuses, détecter les autres vaisseaux, aussi bien ceux qui jaillissaient vers les cieux que ceux qui amorçaient leur descente. De tout cela, il fallait tenir compte, et l'ordinateur en tenait effectivement compte. Sinon, s'aperçut Trévise, il y aurait suffi de le désirer et l'ordinateur l'aurait fait. Autant pour le volume de la programmation, il n'y avait rien à programmer. Trévise songea au sergent technicien Krasnet et sourit. Il avait souvent entendu parler de l'immense révolution qu'allait engendrer la technologie gravitique, mais la fusion de l'ordinateur et de l'esprit humain était encore un secret d'État. Nul doute que cela produirait une révolution bien plus grande. Il avait conscience du temps qui passait. Il savait exactement quelle était l'heure en temps local de Terminus, ainsi qu'en temps standard galactique. Comment se libérait-on? Et à l'instant même où l'idée lui traversait l'esprit, ses mains furent libérées et le dessus du bureau reprit sa position d'origine. Et Trévise se retrouva muni de ses seuls sens privés d'assistance. Il se sentait aveugle et désemparé, comme si, à un moment, il s'était trouvé sous l'aide et la protection de quelque être supérieur qu'il aurait à présent abandonné. Aurait-il ignoré la possibilité de renouer à tout moment le contact que cette sensation l'aurait fait fondre en larmes? En l'espèce, il n'eut toutefois qu'à retrouver son sens de l'orientation, se rajuster à ses propres limites, puis il se releva, chancelant, et sortit de la pièce. Pellerat leva les yeux. Il avait manifestement su calibrer son lecteur. « L'appareil fonctionne à la perfection. Il est doté d'un excellent programme de recherche. Mais avez-vous découvert les commandes, mon garçon ?»«
Oui, professeur.
Tout va pour le mieux. »«
En ce cas, ne faudrait-il pas nous inquiéter du décollage, je veux dire pour notre sécurité? Ne sommes-nous pas censés nous harnacher ou que sais-je encore ?» J'ai bien cherché des instructions en ce sens, mais sans succès, et cela me turlupine. En désespoir de cause, j'ai dû me rabattre sur ma bibliothèque. En un sens, quand je suis absorbé par mon travail. »
Trévise avait levé les mains vers le professeur comme pour endiguer et stopper le flot de ses paroles. À présent, il se voyait obligé de parler plus fort que lui pour couvrir sa voix. « Rien de tout cela n'est nécessaire, professeur. » Antigravité est synonyme d'absence d'inertie. Il n'y a aucune sensation d'accélération quand la vélocité change puisque tout ce qui est à bord subit le changement simultanément.
Vous voulez dire que nous ne serons pas quand nous aurons quitté la planète pour nous retrouver en plein espace?
C'est exactement ça. D'autant qu'au moment où je vous parle, nous avons déjà quitté la planète. Nous allons traverser les hautes couches de l'atmosphère d'ici quelques petites minutes. Et dans moins d'une demi-heure, nous serons dans le vide de l'espace.